France Inter, 7h30. Soyez les bienvenus. Le journal, Sébastien Legenny, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, la première pierre du village olympique des JO de 2024. Le gouvernement débarque en force à Saint-Ouen ce matin pour donner le coup d'envoi des travaux. Les JO vont-ils vraiment bénéficier la Seine-Saint-Denis? Reportage sur place à suivre. Des mois d'attente pour renouveler son titre de séjour. C'est ce qu'on appelle la dématérialisation des papiers. Un enfer pour certains étrangers qui risquent parfois l'expulsion en quête dans ce journal. À suivre également la nouvelle politique des Gilets jaunes, prêts à suivre les syndicats pour la journée de grève du 5 décembre contre la réforme des retraites. La marée noire au Brésil, le président prévient que le pire est à venir. Et pour finir, un gros câlin, Ama, la célèbre gourou indienne, est à Marseille à partir d'aujourd'hui.
Et au micro de Léa Salamé dans 20 minutes à 7h50, c'est aujourd'hui le député de La République En Marche de l'Essonne, également candidat à la mairie de Paris. J'ai nommé Cédric Villani.
France Inter.
Le village olympique, Sébastien, doit sortir de terre d'ici 3 ans environ. Premier coup de pioche aujourd'hui à Saint-Ouen.
Lancement officiel en effet de ces travaux d'Hercule ce matin par le Premier ministre en personne. Deuxième visite d'Edouard Philippe, dans le 93 en moins d'une semaine. Après ces mesures il y a 5 jours en faveur du département le plus pauvre de la métropole, le gouvernement retourne donc en Seine-Saint-Denis. 11 ministres au chevet de ce qui sera l'un des grands chantiers des JO de 2024, le village olympique et paralympique, 51 hectares répartis sur 3 communes, Saint-Ouen, l'Île-Saint-Denis et Saint-Denis, un grand village gaulois qui doit accueillir pas moins de 15 000 athlètes. Alors, s'agit-il d'une bonne opération pour les habitants? Reportage dans un café de Saint-Ouen d'Ajra Mohamed.
Il y a ceux pour qui les JO de Paris, c'est encore très loin.
Pourquoi il se passe quoi en 2024? J'ai oublié un truc, moi.
Les Jeux Olympiques.
Les Jeux Olympiques en 2024, on en parle déjà.
Et ceux qui s'y voient déjà, oui.
Alors ici, on est au café Le Boyard, donc côté Saint-Ouen, 800 mètres de village olympique. Voilà. On est les voisins, à côté.
Nafa, le patron, est ravi que le chantier soit lancé.
Les ouvriers vont bouger, ils vont venir chercher à manger, venir boire leur café.
C'est bon pour le business.
C'est très très bon. Même pour la ville, honnêtement, on a le village olympique. 9-3, c'est merveilleux.
Mais Mani, elle, en a déjà marre des travaux avec le Grand Paris.
Déjà, il y a la ligne 14 là qui nous fait un peu chier parce que on peut pas passer, on peut passer ici, on peut passer là.
Donc là, vous dites quoi? Plus de travaux, ça va être encore
oui,
plus galère?
Bah oui, c'est sûr.
Et beaucoup sont sceptiques sur les retombées promises par les organisateurs.
Ils sont en train de nous vendre des rêves, c'est tout.
Pourtant, après les Jeux, le village olympique doit être transformé en nouveau quartier avec 3500 logements. Mais Charline ne se fait pas d'illusions.
À mon avis, ça ne sera pas des logements sociaux. À mon avis, les loyers seront hors de prix, en fait.
Saïd, lui, reste positif. C'est une opportunité pour le département, dit-il. Il propose même de rebaptiser les Jeux.
Paris, Seine-Saint-Denis 2024.
Voilà le reportage d'Ajra Mohamed. En plus du village olympique, la Seine-Saint-Denis va accueillir d'autres infrastructures majeures des Jeux, comme la piscine olympique, le village média, sans oublier bien sûr le Stade de France, où seront organisées de nombreuses épreuves.
Il est 7h33, Sébastien, quand il devient impossible ou presque de refaire ses papiers pour les étrangers. C'est une enquête de nos confrères de France Bleu Paris.
On appelle cela la dématérialisation des titres de séjour. Au lieu de faire la queue physiquement à la préfecture, les étrangers font désormais la queue sur Internet. Un système mis en place depuis 2016 pour au départ faciliter les démarches administratives. Sauf que depuis, c'est devenu un véritable cauchemar pour les premiers concernés. Il est extrêmement difficile d'avoir des rendez-vous et il faut parfois attendre plusieurs mois pour voir ses papiers renouvelés, au risque de se retrouver en situation irrégulière pour des centaines de personnes. Les précisions de Valentin Dunat de France Bleu Paris.
Prenons un exemple concret.
Moi, je m'appelle César. J'ai 66 ans, 23.
Après 10 ans d'attente, César, qui habite une petite chambre de la CIMAD dans l'Essonne, obtient enfin un titre de séjour l'an dernier.
Ici, c'est pour dormir, pour faire l'internet, les trucs.
César, qui est en situation régulière en France, obtient un CDI, mais en octobre dernier, pour renouveler sa carte de séjour, il tente d'obtenir un rendez-vous par téléphone. Impossible, par internet également. Il se rend donc en préfecture et grâce à son statut de travailleur handicapé, il obtient un rendez-vous 5 mois après l'expiration de son titre.
Je l'ai demandé à le monsieur à le guichet. Excusez-moi, monsieur, j'ai bien entendu. Vous m'avez dit pour mars? Oui. J'ai trouvé un travail à 65 ans en CDI, que c'est déjà difficile. Et maintenant, je risque risque de les perdre à cause de ne pas avoir la carte de jeu renouvelée.
Des histoires comme celle de César, il y en a des dizaines dans la région Île-de-France. Et pour Johan Delhomme, chargé de projet pour la CIMADE, ces dysfonctionnements ne sont pas dus au manque de moyens. Le ministère de l'Intérieur fait un choix politique.
Ils font en sorte que des personnes basculent dans l'irrégularité, alors que ce sont des personnes qui avaient réussi à avoir une carte de séjour et qui bénéficient d'un droit au séjour, des fois depuis même plusieurs années, depuis plus de 10 ans.
Le secrétaire général de la CGT dans l'Essonne va même un peu plus loin. Selon lui, cette situation convient au gouvernement qui voit ainsi les chiffres de l'immigration légale baisser.
Valentin Dunat de France Bleu Paris. Les suites des violences nocturnes de samedi soir à Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines, lors desquelles un centre culturel dédié aux arts du cirque a presque entièrement brûlé. Deux personnes, dont un mineur de 17 ans, ont été interpellées. L'heure est à la convergence avec le monde du travail et avec ses syndicalistes. Les propos sont signés des Gilets jaunes, jusqu'ici très réticents à s'associer aux grandes centrales syndicales. Les Gilets jaunes qui, lors de leur grande assemblée ce week-end à Montpellier, ont décidé de se joindre au mouvement du 5 décembre contre la réforme des retraites, même si les différends avec ces corps intermédiaires sont encore loin d'être apaisés. Écoutez l'un des organisateurs de cette assemblée des Gilets jaunes.
Toutes ces guéguerres syndicales, etc., nous, ça ne nous concerne pas. Beaucoup de syndicats nous ont fait la guerre, clairement, ouvertement, on les connaît. Ils ont essayé de nous enfoncer, ils ont essayé de nous diviser. On s'en fiche. En fait, nous, on sait où est le problème. Et le problème, il est dans le système lui-même, dans le fait qu'il faut changer les règles du jeu. Et on pourra se joindre à des initiatives qui nous semblent pertinentes et qui, certes, peuvent être à l'initiative de syndicats, mais aussi de la population. On s'attend à ce qu'il n'y ait pas que les personnes syndiquées qui se mobilisent, parce que sinon, la grève ne tiendra pas, on le sait. Il va falloir maintenant qu'on arrive à travailler avec les autres mouvements, mais aussi avec la population qui n'appartient à aucun autre mouvement et qui est quand même notre réservoir à nous, Gilets jaunes. Ce sont des personnes, bien souvent, qui ne votaient même plus. Et maintenant, on est la porte d'entrée pour le reste de la population.
Le Gilet jaune, Christophe Adam, au micro d'Elena Loison de France Bleu Hérault. Notez qu'à la SNCF, la direction prévoit aujourd'hui 9 trains sur 10 sur les TGV Atlantique et un retour à la normale la semaine prochaine. La plupart des salariés du technocentre de Châtillon en grève pendant 2 semaines ont repris le travail. Transport encore avec ce deuxième accident de Flixbus en un mois. 33 personnes ont été blessées hier sur l'A1, dont 4 grièvement après que le véhicule effectuant la liaison Paris-Londres se soit couché sur le flanc à la sortie de l'autoroute.
Il est 7h37, direction le Brésil. Sébastien, victime d'une grave catastrophe écologique depuis cet été.
Une marée noire mystérieuse touche le pays depuis la fin du mois d'août. Plus de 2000 kilomètres de côte, plus de 200 plages paradisiaques souillées par des boulettes de fioul, à l'origine encore inconnues. Et ce ne serait que le début du sinistre, selon le président brésilien qui a pris la parole cette nuit. Les précisions d'Anne Vigna à Rio de Janeiro.
Le président Jair Bolsonaro a bien inquiété la population brésilienne hier soir en affirmant lors d'une interview à la télévision que le pire est à venir en ce qui concerne la marée noire qui a déjà souillé les plus belles plages brésiliennes depuis le 30 août dernier. Seule une petite partie du pétrole s'est déjà échouée, mais il reste beaucoup plus, a ajouté le président sans préciser la source de cette information. Cette marée noire a déjà pollué plus de 2500 km de côte et 14 réserves écologiques capitales pour la faune marine. Des images satellites auraient montré que la marée noire se serait produite en fait le 29 juillet dernier dans l'océan Atlantique à 700 km des côtes du Brésil. Les scientifiques craignaient déjà l'arrivée de nouvelles nappes de pétrole, mais sans pouvoir estimer leur taille et leur localisation. La catastrophe est écologique, bien sûr, mais aussi économique à quelques semaines du début de la saison touristique au Brésil. Rio de Janeiro, Anne Vigna, France Inter.
Le corps du brigadier Ronan Pointeau, tué par un engin explosif au Mali, samedi, est attendu dès aujourd'hui en France. Selon nos confrères de France Bleu Drôme Ardèche, l'État islamique a revendiqué l'attaque. Florence Parly est en tournée au Sahel. Première étape de la ministre de la Défense aujourd'hui au Tchad. Il ne fait pas bon avoir une relation sentimentale avec un de ses salariés dans une grande entreprise américaine. Le géant américain du fast-food McDonald's a annoncé s'être séparé de son directeur général Steve Easterbrook. Le conseil d'administration a considéré qu'il avait commis une erreur de jugement en engageant récemment une relation consentie avec un membre du personnel de l'entreprise. La correspondance à New York de Loïc Loury.
La décision n'a aucun rapport avec la performance opérationnelle ou financière de l'entreprise. Moïse, non. C'est une erreur de jugement qui a conduit à l'éviction de Steve Easterbrook, d'après le communiqué du conseil d'administration de McDonald's. En cause, une relation consentie avec un ou une membre du personnel de l'entreprise, aucune précision à propos de cette personne. Une erreur avait en tout cas assuré le désormais ex-patron de la firme dans un email. Les valeurs de McDonald's étant ce qu'elles sont, dit-il, je suis d'accord avec la décision du conseil. Easterbrook, pourtant, avait rendu un grand service au géant du fast-food. Intronisé en 2015, alors que McDonald's sombrait, l'action à Wall Street a doublé sous sa direction. Le bénéfice a augmenté chaque année. Remplacé par l'actuel patron de la branche américaine, il connaîtra mardi le montant du chèque qu'il touchera pour son départ. New York, Loïc Loury, France Inter.
Et le directeur de McDo pourra toujours aller se consoler dans les bras d'Ama, la célèbre gourou indienne, fait escale à Marseille à partir d'aujourd'hui. 25 000 personnes sont attendues en quête d'amour, de réconfort, de spiritualité. Depuis 44 ans, Ama sillonne le monde pour distribuer ses darshan, comme on dit, ses étreintes. Sébastien Sabiron a rencontré l'une de ses fans.
Dans le civil, elle s'appelle Evelyne, 71 ans, 5 petits-enfants, mais elle préfère le prénom qu'Ama lui a donné.
Je m'appelle Punyavati. Ça veut dire celle qui a des vertus et qui jouit d'un bon karma.
Il y a 20 ans, à Paris, en pleine recherche spirituelle, Evelyne reçoit sa première étreinte, son premier darshan dans les bras d'Ama, un câlin de quelques secondes qui changera sa vie.
Moi, j'ai ressenti un bien-être, j'ai ressenti quelque chose de doux, d'être dans les bras d'une maman, très aimante. J'avais l'impression de retrouver quelqu'un. C'est le divin, pour moi, dans un corps de chair. C'est le divin incarné.
14 voyages en Inde plus tard, Evelyne fait partie des 800 bénévoles qui accueillent le public marseillais, toujours plus nombreux à réclamer des câlins. Il est conseillé d'arriver jusqu'à 6 heures avant le début du darshan.
En ce moment, c'est vraiment, la vie est assez dure. Et c'est un réconfort aussi qu'ils viennent chercher dans les bras d'Ama, je pense. Parfois, les gens ressortent en pleurant. Moi, j'ai vu des grands gaillards qui étaient à la sécurité, qui ne voulaient pas se passer dans ses bras et qui sont passés. Et il y en avait même qui pleuraient. Elle, sa religion, c'est l'amour.
En tournée, la prêtresse sert des dizaines de milliers de personnes dans ses bras jusque tard dans la nuit et termine avec des bleus sur les joues. L'étreinte est gratuite, mais grâce aux dons et aux produits dérivés, la céréale câlineuse œuvre dans le monde entier pour les droits des femmes, l'éducation, la santé et l'environnement.
Voilà, Ama Mata Amrita Nandamayi de son vrai nom. Nicolas a serré pas moins de 39 millions de personnes dans ses bras. Qui dit mieux ?
Merci Sébastien Legénie.